Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, un invité revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Salah Alhamdani. Bonjour Salah Alhamdani.
Bonjour Zoé.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Salah Alhamdani, vous êtes poète, écrivain et homme de théâtre. Vous êtes d'origine irakienne et vous avez choisi comme journée particulière un jour de l'été 1973 à Bagdad. Ce jour-là, vous avez découvert Albert Camus alors que vous sortiez de prison.
L'Irak de la légende, c'est d'abord la Bagdad des mille et une nuits, aujourd'hui disparue. Ce sont ces mosquées couvertes d'or. C'est l'islam. C'est encore le Moyen-Âge avec ses petits métiers et ses traditions. Tout cela, le Baas, le parti socialiste arabe au pouvoir depuis 1968, veut le faire évoluer. Il veut faire rattraper au pays son retard, en faire une nation moderne, économiquement développée. Son atout et sa richesse, le pétrole. Partout des routes et des écoles en construction. Ici, aux environs de Bagdad, des professeurs et des étudiants creusent à la pelle plusieurs kilomètres de canaux d'irrigation.
Salah Alhamdani, c'est une archive du début des années 70. Vous souriez, je vois déjà. L'Irak était à cette époque-là en pleine transformation, c'est ce que dit l'archive. Enfin, c'est une archive qui met le Baas, le parti Baas, à l'honneur, alors que c'est ce parti-là qui vous a emprisonné.
Oui, c'est ça le paradoxe, alors que pour moi c'est plutôt le 1958, la révolution irakienne qui a fini définitivement avec la monarchie en Irak.
Ouais.
Hein, c'est le 14 juillet 1958. D'ailleurs, les Irakiens, ils fêtent le 14 juillet exactement comme les Français. Oui, mais 60, c'est un coup d'État. C'est pas une révolution. Saddam, avec les partis Baas, ils sont venus pratiquement avec des chars américains. Donc, il faut mettre les choses au point. Oui, la dictature de Saddam Hussein a fait beaucoup de choses en Irak, bien entendu. Elle a fait également aussi beaucoup de catastrophes et des mutilations du peuple irakien.
Mais justement, Salah Alhamdani, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez été emprisonné? Pourquoi vous avez été...
Étant donné que je suis d'une famille très très pauvre, et comme on sait tous qu'un pauvre est destiné à faire la guerre, dans des pays arabes en général, c'est-à-dire il est destiné à aller à l'armée, devenir soldat, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen finalement. Moi je n'avais pas de diplôme, j'avais rien. Quelqu'un de misère, au pied nu.
Donc c'est pour ça que vous êtes engagé dans l'armée, c'est ça que vous êtes en train de me
dire. L'armée irakienne, absolument, ce n'est pas par amour de l'armée. Et je vous donne en mille, je suis devenu parachutiste. Bah oui, parce que bagarreur dans les quartiers pauvres de Bagdad, bah on est destiné quoi, à être commando et parachutiste. Donc je suis allé dans l'armée irakienne, ils m'ont fait pratiquement un soldat pour tuer.
Et oui, vous a appris à tuer.
Oui, absolument. Elles m'ont appris à tuer, à être parachutiste et commando, c'est ça. Et comme je voulais pas, justement, adhérer au parti Baas de Saddam Hussein, et toute personne qui n'adhère pas, on les envoie au casse-pipe, comme on dit en français, ça veut dire dans le nord de l'Irak. Là où il y a les Kurdes, ils sont depuis toujours révoltés parce que ils sont toujours à la recherche d'un État, une reconnaissance d'un État. Et c'est là, dans le nord de l'Irak, à Kirkuk, j'étais soldat.
Et vous aviez quel âge,
à peu près? J'avais à peu près 19 ans peut-être, 20 ans, 19 ans, quelque chose. Non, même pas, 18 ans peut-être, voilà.
Quand vous êtes envoyé à Kirkuk, vous avez à peu près 18 ans.
J'avais à peu près 18 ans, voilà, dans cette fourchette-là, voilà. Et donc, c'est dans le camp militaire à Kirkuk, avec mes amis soldats de l'époque, quand la nuit tombe, on écoute des bruits et des cris d'enfants dans les camps militaires. Et un jour, entre nous, on discute, on dit, mais c'est quoi ces bruits et tout ça? Il y en a un de mes amis soldats, il m'a dit, mais tu ne sais pas, c'est des enfants kurdes. C'est des bergers kurdes que les services de renseignement de Saddam Hussein, qui étaient en civil dans les camps militaires, hein, ils rattrapent ou ils attrapent des enfants kurdes, des bergers, ils les amènent au camp, et là, ils les frappent, ils les torturent à la recherche de leurs parents. Parce que leurs parents étaient dans le maquis.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle les berges morgas. Les berges morgas aujourd'hui, qui sont très très honorables contre Daesh, c'est les mêmes, hein,
c'est
que
les
Saddam
mêmes.
Hussein à l'époque, il les massacre. Et moi, comme je suis né dans un quartier de Bagdad où il y avait beaucoup de Kurdes, je dis comment ça c'est une réaction. Je ne suis pas révolutionnaire, hein, il ne faut pas comprendre ni Che Guevara, je ne connaissais rien de cette.
Non, mais
de
vous réagissez
ça, à l'époque,
mal.
J'ai réagi contre l'insupportable, finalement. J'ai dit il faut qu'on le libère.
Ah, qu'on libère les enfants
Absolument.
Kurdes.
Absolument. Oui, bah oui. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein?
Et c'est ce que vous avez fait, Salah Hamdani?
C'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis organisé avec d'autres amis soldats. On était une dizaine. Et on commence à libérer les enfants kurdes le soir. Parce que c'était dans un camp militaire au début d'une construction. Donc, il n'y avait pas de ciment ou de choses comme ça. Il n'y avait pas. C'était des tentes, des pièces faciles à casser et rentrer. Et ben, finalement, j'ai utilisé tout ce que j'ai appris dans l'armée irakienne contre mon propre camp. Je suis un poète traître.
Vous êtes un traître. Et c'est pour ça que c'est parce qu'on vous a accusé d'être un traître que vous avez été emprisonné.
Tout à fait, parce que j'ai travaillé avec l'ennemi. Et comme en général dans le monde arabe, et particulièrement à l'époque de Parti Baas, toute personne qui on considère qu'il ne rentre pas dans le rang de l'État ou dans le rang ce qu'il voulait la dictature, ben il est ennemi parce que finalement il travaille avec les États-Unis et il travaille surtout avec les sionistes, avec Israël et tout ça. Donc pour eux, j'étais une personne qui travaille avec des services de renseignement extérieur de l'Irak.
Et qu'est-ce qui s'est passé, Salah Hamdani? Donc vous vous retrouvez à peine 20 ans en prison?
Voilà, donc ils m'ont capturé, ils ont découvert qui était derrière la libération de ces enfants. Et un de ces matins, à l'aube, je me souviens très bien de ce moment-là, où je me suis réveillé, torse nu, soldat, et il y avait autour de moi une dizaine de personnes des services de renseignement avec des Kalachnikovs, des chaînes et tout ça. Et ils se jetaient sur moi parce que dans le nord de l'Irak, on dormait avec notre arme à côté de nous, hein, voilà, pour se défendre. Et donc, du coup, j'étais prise tout de suite, capturée, et frappée,
crachée
dessus, dans une voiture. Et ils m'ont amené directement à Bagdad, dans le service de renseignement, pour se faire ma fête, quoi, de torturer, etc. Pour savoir, est-ce que j'ai d'autres personnes avec moi, ou est-ce que réellement, je travaille avec le service
secret,
etc. Voilà.
Et pourtant, alors que l'histoire commence mal, j'allais dire, Salah Hamdani, en prison, vous allez découvrir un monde qui va changer votre vie, puisque vous allez être emprisonné avec des intellectuels.
Alors là, c'est ça qui, pour moi, c'est une chose extraordinaire, parce que comme je n'avais pas un diplôme, je ne savais à peine lire et écrire l'arabe, je me suis trouvé dans une cellule, ou dans une prison en tout cas, où il y a beaucoup d'intellectuels, des hommes politiques, eux, il y a des généraux, très cultivés, des gens formidables.
Qui ont fait votre éducation?
Qui ont absolument. Je suis passé 8 mois à apprendre à lire, à écrire, jouer aux échecs et découvrir la poésie. Que moi, à l'âge de 20 ans, je
Petit
ne savais pas.
Petit parachutiste.
Absolument rien du tout. Quelqu'un qui était destiné à faire la guerre. Et finalement, par mes réactions, par ma manière de faire, je suis devenu poète.
En 1973, en tout cas, Salah Hamdani, alors qu'on vous prenait pour vous jeter en prison, Bob Marley chantait « Get up, stand up », un chant de résistance.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an order.
feet high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now when you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Jab, jab.
Stand up for your rights.
Une journée particulière, ça continue jusqu'à 15h sur France Inter et c'est le poète et écrivain d'origine irakienne Salah El Hamdani qui est notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous avez choisi comme journée particulière le jour où vous êtes sorti de prison à Bagdad et que vous avez découvert Albert Camus, c'était dans l'été 73. Mais vous venez de me dire juste avant ce disque que vous êtes rentré en prison, vous étiez un parachutiste et vous en êtes sorti, vous étiez un poète. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous sortiez poète de cette prison ?
En prison, comme je disais, qu'il y a beaucoup des intellectuels, des écrivains, donc c'est un endroit où il y a justement des opposants au régime. Donc des gens qui ont une philosophie, une réflexion, des intellectuels, etc. Et un jour, j'entends en prison, pendant qu'on a peur de se faire fusiller, ou quelqu'un qui chuchote, il murmure le soir avec des mots, des phrases. Et moi, je trouvais que c'était très très beau. J'ai adoré, j'ai dit, c'est beau ça. Et comme j'étais ignorant, intellectuellement parlant, j'ai dit, c'est peut-être le Coran,
oui, c'est ça,
peut-être
c'est la parole,
voilà, la prière, quelque chose de cet ordre. Et un jour, j'ai osé lui demander...
Mais c'est quoi ?
C'est quoi que tu murmures tous les soirs ? Je trouve que c'est très beau. Et il m'a dit, c'est des poèmes. J'ai dit, poèmes, ça veut dire quoi ? Il m'a dit, tu ne sais pas ? Je lui dis, non. Je lui dis, est-ce que moi, je peux écrire des poèmes comme toi ? Il m'a dit, oui. Toute personne qui a des sentiments, il peut écrire des poèmes. J'adore.
Ouais,
voilà, c'est une leçon pour moi que j'ai pris toute ma vie. Donc moi, je suis dit, moi j'ai beaucoup de sentiments, tu parles. J'étais tellement tabassé que... Donc je suis allé à écrire mon poème, j'ai trouvé un crayon, etc. Je me suis débrouillé. Et j'ai le temps, mon poème, quoi, c'est que j'ai écrit 3 jours après. Alors il lit et il le déchire. Je dis, mais ça va pas, tous mes sentiments. Il m'a dit, mais il ne faut pas écrire ce genre de choses. Tu as perdu la tête.
Pourquoi ? Voilà.
Bah oui, j'ai perdu la tête. Va savoir si j'écris un torchon, qu'il a dit qu'est-ce que c'est que
ça. Ou alors un excellent poème.
Ou bien un excellent poème, il dit si les gardiens ils vont le trouver, ils vont le fusiller immédiatement.
Ouais.
Va savoir. Oui, ça signifie plus tard, pour moi l'écriture, c'est une responsabilité. On peut voir justement des sentiments pour rire des poèmes, mais les responsabilités de l'écriture, c'est aussi essentiel que de voir des sentiments.
Alors Salah El Hamdani, c'est comme ça que vous sortez de prison en étant poète. Et là, vos parents vous renient, ne veulent plus vous voir parce
oui,
que parce... vous êtes un traître.
Oui,
et pour eux, c'est très grave d'être accusé de traîtrise.
Bien entendu, parce que les services de renseignement de parties basses, ils ont fait leur boulot avant que les prisonniers politiques sortaient. Donc dans les quartiers, et c'est des quartiers populaires, ben, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, on lance des ragots contre la personne, genre lui, il travaille avec Israël, travaille avec les États-Unis, travaille avec les ennemis. Et donc, mes parents, ils avaient la trouille. Et c'est un pays, même ma famille irakienne, ils étaient au pieu, tu vois, quelque chose de
Mais
cet ordre.
Est-ce que ça veut dire quand même que quand vous sortez de prison, vous allez dans votre quartier et que là, vous êtes rejeté ou vous n'y allez même pas parce que vous savez comment ça va se passer ?
Non,
vous
pas
savez
du tout.
Que
Moi,
vous allez être rejeté.
Mais vous savez que quand on sort un prisonnier politique, on le n'attend pas du papier où il y a un taxi qui vient le chercher. C'est pas ça, hein. Maintenant, on le prend dans un camion, on le jette à l'aube, on le jette dans la rue.
Dehors.
Sur une place. Moi, je me souviens, c'était le place Tahrir, qui tout le monde le connaît, ce genre de place dans le monde arabe. Parce que toujours, il y a une place Tahrir, on sait pas pourquoi. Et que, du coup, ils m'ont jeté de là-bas. Sors, connard, salopard, ils m'ont frappé, ils m'ont jeté, et j'avais rien.
Alors qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, Salah Hamdani? Vous avez 20 ans, hein, c'est ça?
Oui, je me suis dirigé vers mes parents, où voulez que j'y aille? J'ai pas d'autre endroit, donc je suis allé voir ma famille. Et c'est les surprises, c'était quand je suis rentré à la maison chez mes parents. Et d'un coup, je vois pétrifiés, ils ont la trouille de moi, quoi. Mes parents, mon père surtout, et mes frères, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous ici? Ah oui, j'ai dit, mais où voulez-vous que j'y aille? Si vous êtes ma famille. Donc ma mère pleurait, et mes sœurs aussi. Et donc ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont dit, mais on ne veut pas que tu viennes ici. Tu vas nous ramener beaucoup d'ennuis.
Alors vous êtes allé où, Salah Hamdani? 20 ans, jeté dehors, vous n'aviez pas un franc, vous avez fait quoi?
Il y a un quartier que je connais très bien, pas très loin de chez moi, qui s'appelle Al-Midan de l'époque, les Irakiens ils le connaissent, et c'est un quartier de prostitution. C'est un peu Pigalle, comme à Paris, mais au mieux là-bas, parce qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire, les prostituées se trouvent dehors.
Donc c'est avec les prostituées que vous avez trouvé un refuge?
Absolument.
Elles vous ont accueilli et elles se sont occupées.
Bah oui, peut-être que j'étais très beau, j'en sais rien.
Vous dites ça, Michael, les regards.
Oui, mais un poète. Oui, je trouve que c'est formidable. Poésie et prostitution, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va ensemble.
Qui
vont ensemble.
En tous les cas, la femme. Bah, peut-être. Ça,
j'adore.
Poésie et la beauté.
Oui,
des femmes.
C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les prostituées aujourd'hui même. J'estime qu'elles m'ont, sauvé. Je suis allé chercher un endroit. Pour quelqu'un qui sort de prison politique, c'était pas aussi simple ça que de trouver un logement. Et donc, je trouvais finalement une femme qui s'occupe de prostitution.
Mère Macrel.
Mère Macrel. Et elle m'a dit, donne-moi tes livrets militaires. Et ça t'a marqué que j'ai
traître.
Voilà. Enfin, pas traître, c'est marqué selon l'article, machin, un truc, voilà. Et donc, elle me dit, bon, allez, voilà, t'as une chambre... on peut te donner, ne joue pas au plus fin ici, hein, d'accord? Voilà, on va te donner un logement.
Alors, et voilà, et là, c'est une nouvelle vie qui commence.
Ah, oui,
pour
absolument.
Vous, Salah Hamdani, vous êtes donc réchauffé par ces prostituées, et puis vous passez vos journées à vous promener, à vous balader, à aller dans les cafés, tel un bon Irakien, et vous allez particulièrement peut-être dans cette rue-là.
La rue Moutanabi, c'est le cœur de Bagdad. Je sais qu'il vivra toujours. Il symbolise la vie à Bagdad, mais aussi dans tout l'Irak. C'est le coût de la vie culturelle ici. Je viens ici depuis que j'ai 16 ans, depuis 1959, pour voir les livres sur la culture et l'histoire. Maintenant, j'ai 69 ans et je viens toujours dans cette rue. Je n'accepte aucune invitation en Irak ou en dehors du pays qui pourrait m'empêcher de venir ici le vendredi. Cette rue compte beaucoup pour moi. Venir ici me rend vraiment heureux.
Salah Hamdani, est-ce que c'est dans cette rue-là que vous alliez, dans la rue Moutabani
Moutanabi.
Moutanabi,
rue Moutanabi, c'est pour aller chercher des livres et lire à l'époque, comme je...
Vous deveniez de découvrir la poésie.
Parce que c'est pas très loin, le quartier de prostitution d'El Moutanabi, justement, la poésie, c'est pas très loin. Hein.
Donc vous y alliez pour commencer à...
Parce qu'on peut lire là-bas. Ce qui est intéressant, on est à Bagdad, à mon époque, je connaissais bien.
Donc ça, c'est, on parle du Bagdad des années 70.
Bagdad, hein. Voilà. C'est quand on rentre dans un café, beaucoup de lecteurs qui achètent des livres, et quand ils finissent les livres à lire, ils l'abandonnent dans les cafés.
Ils les laissent.
Ils les laissent. Et c'est comme ça, un jour, dans un café de Bagdad, je vois un livre qui s'appelle « Les mythes décisifs » en arabe, traduit de français, d'Albert Camus.
Et vous le prenez?
Je prenais ça. Par hasard, je ne l'ai pas acheté. Personne ne m'a dit qu'il faut lire Camus. C'était dans un café où je rentre comme beaucoup d'Irakiens et j'ai lu le mythe décisif.
Et ça a changé votre vie?
toute ma vie.
Ça a changé votre vie, entre autres, pour cette phrase-là.
À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe revenant vers son rocher, dans ce léger pivotement, il contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créée par lui, unie sous le regard de sa mémoire et bientôt scellée par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Salah Alhamdani, c'est une archivina de 1960. Vous ouvrez grand les bras. Et c'était la voix de Jean Topard qui disait donc les derniers mots, les dernières lignes de Sisyphe. Et cette phrase, la lutte elle-même vers les sommets, suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux, vous a permis de survivre d'une certaine façon, Salah Alhamdani. Ça vous a permis de donner du sens ou de comprendre que l'absence de sens de votre vie, l'absurde dans lequel vous étiez, c'était ça le sens.
J'ai l'impression que j'ai compris, c'est le sens de ma vie. Là, c'est des phrases. Imaginez un gars comme moi, il sort de prison, poursuivi, torturé, rejeté par sa famille. Donc il y a beaucoup d'éléments. Et lire des phrases comme ça, il m'a ouvert la planète pour moi. C'est pas la liberté. Il m'a fait comprendre qui je suis finalement.
Pourquoi? Parce qu'il vous a fait comprendre que vous pouviez vivre heureux malgré toutes ces
Absolument.
Souffrances.
Absolument. Imaginez Sisyphe heureux. Pour moi, c'est une phrase. J'étais Sisyphe. Je sais pas pourquoi je suis allé en prison. J'avais des enfants. Alors on est condamné pour ça. Mais Sisyphe, c'est quoi?
Vous êtes vu dans Sisyphe.
Absolument. Plus que ça, c'est les écrits de Camus, il faut pas oublier quand même ça. Ces phrases, ces virgules en arabe, c'était très très bien traduit. Et que donc je lui ai dit, je suis heureux, ça signifie d'abord, il ne faut pas y aller vers la religion.
Oui, parce que c'est...
Condamné, finalement...
Camus, c'est la révolte aussi contre Dieu.
Absolument.
Donc, ne pas aller vers la religion. Ne pas se suicider parce que vous aviez des envies de suicide.
Ne pas se suicider parce que l'idée au suicide, il t'envahit. Parce que tu es dans un monde où tu ne sais pas où donner la tête. Moi, j'avais rien, j'étais perdu. Donc, les suicides, c'était des choses pas très très loin. Ou bien aller être voyou, parce que j'avais la force, j'étais parachutiste. Je peux être voleur, casseur de banque, j'en sais rien.
Et Camus, en fait, vous a donné la possibilité d'accepter de vivre malgré l'absence de sens. C'est-à-dire d'accepter que l'absurde fasse partie de votre vie.
Elle m'a fait comprendre que si je suis condamné par un dieu, imaginaire même, je suis plus fort que Dieu.
Moi, vous vous rendez compte?
Moi, le petit Salah, à Bagdad, au pied nu, j'étais plus fort que Dieu. Et donc, finalement, oui, j'ai compris pourquoi j'étais condamné. Je suis condamné à monter le rocher redescend, je le remonte, et je dois être heureux. Qu'est-ce qu'on veut plus que ça? Pour moi, c'était énorme. À Bagdad, en plein de moutons, de chèvres, de chameaux, de voitures, de poussières, il y a un Irakien, comme moi, au pied nu, dans les cafés de Bagdad, il trouve la vie.
En lisant Camus.
Absolument.
Et alors, c'est quelque temps après, quand vous apprenez que vous êtes sur une liste noire et que votre vie est vraiment en danger, qu'on veut vous faire la peau, quand vous vous demandez où est-ce que je peux aller, vous répondez, évidemment, le pays de Camus.
Je vais au pays de Camus. Je n'avais pas d'autre solution. Parce que, en plus, ce n'était pas du tout destiné au voyage. Je sais, dans les cafés de Bagdad, c'est les enfants des riches qui vont au voyage, pas moi. Je n'avais rien. Je ne parle à peine l'arabe d'une manière correcte. Je ne parle pas une autre langue. Je n'ai pas de diplôme. J'ai quelques poèmes misérables. Et j'ai une prostituée qui m'attend là-bas. Donc, je veux dire que où elle est, j'en sais rien. Et d'un coup... Quand mes amis m'ont dit, t'es sur une liste noire, il faut absolument que tu quittes l'Irak. Camus, dans ma chambre, il y avait l'œuvre complète de Camus en arabe. J'ai dit, oui, je vais au pays de Camus.
garde de la neige dans un coin de mon âme. Je garde de la neige quelque part dans mes pensées. Je garde de la neige quand l'hiver nous aura oubliés. J'aurai quelques flocons à ramasser. Je garde de la neige pour les prochains qui n'auront plus rien à se mettre sous les gants. Je garde de la neige en souvenir des longues glissées, des enfants revenant les fêtes se geler. Je garde de la neige pour les années de sécheresse. Je garde de la neige pour ne pas oublier les matins blancs que nous avons laissés filer. Je garde de la neige mes lèvres gercées. Je garde de la neige le souvenir de nos peaux, tendues par les vents qui traversaient nos manteaux. Je garde de la neige pour la bulle qui balait le plateau, pour ne pas oublier le courage des chiens de traîneau.
Particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Bon, et aujourd'hui, la journée, c'est la journée particulière de Salah Al-Hamdani, poète et écrivain d'origine irakienne, et c'est jusqu'à 15h sur France Inter. Salah Al-Hamdani, donc vous êtes sur cette liste noire, vous vous dites je pars pour la France, enfin je pars pour le pays de Camus. Vous saviez quoi d'autre de la France à part qu'il y avait un écrivain qui s'appelait Camus?
Oui, parce que comme je disais, je découvre des livres, donc j'ai lu Victor Hugo, quelques ouvrages.
Mais à part des écrivains, vous saviez quoi ?
Rien, absolument rien.
Donc quand vous débarquez ici, vous débarquez, je ne sais pas comment, mais vous débarquez, alors ça a pris un peu de temps, c'est l'année 75, vous ne parlez pas un mot de français ?
Pas du tout, j'ai un ami tunisien à Bagdad, qui lui, il était chassé par le régime de Bourguiba.
Ah oui.
Non mais c'est intéressant.
Qui venait d'être président à vie. Hein,
oui, mais c'est à l'époque. En tout cas, s'appelle Omar Ammar. C'est un gars qui a entendu parler que je veux aller à Paris. Donc tout le monde c'est curieux. Il dit mais lui, pourquoi lui il va à Paris? Il a rien. Et il m'a dit écoute, voilà, je te conseille. Voilà une adresse. Il a écrit et voilà un ticket de métro. Quand tu arrives à Paris. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sortent de la gare, ils vont aller sous la terre. Et moi, je dis, quoi? Moi, je vais sous la terre? Pourquoi les Français vivent sous la terre? Il me dit, non, mais tu vas avec eux, t'inquiète pas, c'est un train sous la terre. Nous, on n'est même pas déjà un petit train à Bagdad, donc j'imaginais tout ça. Et donc, il me dit, tu rentres les tickets là dans la machine ou je sais pas quoi, et là, tu vas avec les gens, et tu leur demandes, ils vont t'amener vers l'adresse. Bon, ben, c'est comme à Bagdad, quoi. On n'a pas quelque chose de très précis.
Ouais.
Donc, j'avais une adresse. Mais sauf que l'adresse était écrite en français et les chiffres arabes dans l'adresse, moi je ne lisais pas, parce que je n'ai pas appris à l'école. Donc je lisais les chiffres hindous.
Ouais. Et ça c'est formidable parce que vous étiez dans une situation absurde et c'est l'absurde
c'est encore,
de Camus qui vous poursuivait.
C'est encore ça, c'est encore le côté absurde. Et donc trouver, c'était 44, c'était un dessin pour moi dans l'adresse, hein. Ouais. Trouver les 44 à Paris, et moi j'arrive embarqué comme ça à Paris, embarqué exactement le terme
ouais.
De Camus, et j'ai cherché cette adresse. Et comme je n'ai pas eu, les gens, ils disent, bon, vous savez, les Français, quand on leur donne une adresse,
ouais,
ils regardent toujours vers le haut. Alors je dis, pourquoi ils regardent là-haut? Parce qu'ils cherchent le chiffre, ils cherchent quelque chose.
Ah, c'est pour ça qu'ils regardent en haut. Absolument. Je ne comprenais pas.
Et oui, et moi j'ai dit, mais pourquoi ils regardent là-haut? Et ils tournent la tête comme ça, et après ils me font signe, ils me parlent en français sûrement, mais que moi je ne comprends rien, mais je vais vers la direction de sa main. Et donc, voilà, comme ça, et je n'ai pas trouvé. Et après, j'ai dit, il faut que je le trouve, cette adresse, tout seul. Et ben, je commence à comparer les dessins. C'était 44. Trouver les 44 à Paris. Imaginez-vous.
Ah oui, c'est ça. Comparer ce que vous aviez sur votre papier et ce que vous voyiez.
C'est sur l'adresse, je vois. Et d'un coup, j'arrive, bien entendu, le même dessin. Je rentre dans l'immeuble. Quelqu'un descendait à ce moment-là. Le hasard des choses. Je lui montre l'adresse. Je lui dis yes, no. Il le regarde et il me dit en arabe, oui, c'est moi. Que puis-je faire pour toi? Va, vous allez savoir c'est quoi l'absurde, hein? L'absurde, c'est ça. C'est que voilà, on est chassé, condamné par l'absurde, hein? Et ouais. Ça, c'est de côté absurde énorme. Et
que puis-je faire pour vous?
Oui, non, mais il me tutoie direct parce qu'il a compris que je suis arabe, donc il n'y a pas de vous. Et je vous donne en mille cette personne, je ne l'ai jamais revue après. Il m'a amené dans son studio. Il m'a dit, je vais chercher de cigarettes.
Et jamais revenu.
Je l'ai jamais vu. Il y avait trois Tunisiens, une heure plus tard, qui embarquent dans le studio. Il me dit, vous venez d'où? Plus tard, quand j'ai vu, enfin, quelques années plus tard, Omar, qui m'a donné l'adresse, il revient à Paris. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit, tu sais qui était cette personne?
Non.
Je lui dis non.
C'est qui?
Je lui dis, c'était une personne qui était recherchée par Interpol. Je lui dis, et moi, je le trouve. Bien sûr, le gars, il est complètement... Il dit quoi? En plus, j'avais les cheveux longs, donc il ne comprenait pas que je viens de Bagdad. Donc, bon. Le gars, il a dit, ça y est, le service de renseignement, il l'envoie vers moi. Vous voyez comment les choses passent. Voilà, comme ça que c'était passé. Hein.
Ouais, mais c'est un peu fou, toute cette histoire.
Oui.
Et c'est d'autant plus fou quand on sait que donc, vous débarquez à Paris, vous ne connaissez pas la langue, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais ce que je sais de vous, Salah Alhamdani, c'est que vous débarquez et que vous vous retrouvez étudiant à l'université de Vincennes.
De
donc
Paris 8.
Paris 8, en 75.
Au centre expérimental de Vincennes, tout sera nouveau. Les étudiants et les professeurs décideront ensemble du contenu des études. Le contrôle des connaissances sera fait semaine par semaine. Les cours seront donnés sans interruption de 8 heures du matin à minuit. Ainsi, les étudiants qui ont un emploi ou les adultes qui veulent compléter leur formation pourront aller à l'université après leur travail.
Salah Alhamdani, c'est ce qui vous est arrivé. Donc, Vincennes, faut resituer. Hein. C'était un centre expérimental, c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est une université qui est née après les événements de mai 68. C'était un lieu d'innovation, ouvert sur le monde contemporain et qui acceptait tout type d'étudiants, y compris salariés, y compris vous, Salah Alhamdani.
Y compris moi. Moi
qui parlait un peu mieux français.
Rien du tout, j'arrive absolument pas. Ils m'ont amené, mes amis, donc ce Tunisien, après, ils ont découvert qui j'étais, donc ils m'ont aidé. Ils m'ont amené chez une personne qui s'appelle Alain Artaud, qui était une pilote des lignes.
Ouais.
Et ce monsieur-là, il m'a pris sous ses ailes, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a inscrit à la fac de Vincennes. Et ils ont donné l'explication que j'étais prisonnier politique.
Et donc, on vous a inscrit?
Absolument. Il dit que, et donc, il me dit, ben, écoute, il y a une université ici, je pense qu'on peut t'inscrire. Donc, moi, la France, j'ai l'impression qu'ils ont construit Vincennes pour moi.
Alors ça, j'adore. C'est génial de dire ça comme ça. Alors racontez-moi, parce que a été dingue d'arriver à Vincennes.
Mais moi, j'ai jamais imaginé, j'étais à peine à l'école. Et d'un coup, je me suis trouvé à plusieurs couleurs, des noirs, des arabes, des juifs, des français, des allemands, tout ce qu'on veut, des jeunes qui fument des hachiches, qui font l'amour partout.
Non.
Absolument, il y avait, oh là là, c'était formidable.
Dans l'université?
Oui, il y a des endroits, non mais on va pas tout dévoiler, mais c'était
mais
un
c'est
endroit.
C'est vrai, vous faisiez l'amour à l'université?
Oui, oui, il y a des jeunes qui, moi je faisais, alors, la question c'était...
Celle-là vous m'arrêtez.
Non mais je ne savais pas que, tout ce que je sais, que quand même Vincennes était entouré de soldats, hein. Nous, on était au milieu de camps militaires quand même. Hein. De Gaulle était sympa, mais ils ont donné ça. Mais quand même, on était cernés, hein, au cas où il y a une révolution qui se passe. Donc, il y avait de l'armée autour de Vincennes. Hein. Et donc, moi, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux étudier? Alors, j'ai dit, moi, je vais étudier tout. Ils m'ont dit, ça veut dire quoi? Je dis, est-ce que c'est possible d'étudier le théâtre, la philosophie, la langue, la politique, tout, tout, absolument tout.
Donc vous passiez votre vie à la scène, mais vous deviez travailler pour gagner votre vie, vous y allez le soir?
Je travaille les jours. Je me lève à 5h du matin, je travaillais dans un supermarché qui s'appelait Viniprix.
Il n'existait plus. Ah oui, Viniprix, moi
voilà.
Je me rappelle.
Ah oui, vous vous rappelez des Viniprix. Oui, oui. Voilà, Viniprix. Et donc je travaille à Vitry-sur-Seine. Les matins, je me lève à 4h, à 5h du matin, et je travaille jusqu'à l'après-midi, et après, j'ai passé au cours du soir, comme les pauvres à Bagdad. J'étais dans le cours du soir également à Bagdad. Donc, c'est quelque chose qui m'a suivi, et que je suis resté 4 ans étudiant de théâtre.
Mais alors de théâtre et de cinéma aussi.
Et de cinéma, oui, j'ai voilà, tout à fait.
Alors, est-ce que votre cours de cinéma pouvait ressembler à ça?
Quel rôle peut jouer dans l'action politique de la section cinéma? Non pas la section cinéma, mais les moyens matériels dont dispose cette section cinéma.
À qui appartiennent les moyens de cette section cinéma, sinon à ceux qui la composent?
Voilà. Les moyens matériels de cette section cinéma n'existent pas, premier point. Deuxième point, le matériel auquel vous venez de faire allusion appartient au centre universitaire de Vincennes.
À qui appartient le matériel du centre universitaire de Vincennes, sinon à ceux qui le composent?
On vous propose précisément de faire des commissions pour en disposer et juger de l'ensemble du
gouvernement.
Pour se servir de ce matériel, il faut des responsables techniciens. Bien. Deuxièmement, si vous désirez vous servir de ce matériel, demandez-le.
Pour moi, il me semble évident, d'après ce que vous avez dit depuis le début de cet AG, que vous êtes contre le fait de se servir des moyens qui sont ici pour faire une information véritable et militante.
Il s'agit de savoir si vous acceptez de poser ce problème de cette manière-là, en quoi on peut utiliser le cinéma pour une action politique, ou si vous voulez faire de l'étude du cinéma simplement une étude esthétique.
Délicieux, non?
Formidable, formidable, parce que ça me ramène un jour, il y a Godard qui est embarqué à Vincennes, et moi, je ne le connaissais pas. Ils m'ont dit, il faut absolument que tu insistes, c'est un grand cinéaste, tout ça. J'ai dit, oui, et tu vas voir.
Il donnait des cours, Godard?
Non, il ne donnait pas des cours. Alain René aussi. Vincennes a ouvert ses portes à d'immenses personnages dans le cinéma, dans le théâtre, dans la philosophie, quand même.
Et qui venaient comme ça parler.
Qui venaient faire une séance avec les élèves, quoi, ouais. qu'ils parlaient. Beaucoup de gens, entre parenthèses, de gauche,
venaient à Vincennes
pour apprendre des cours avec de personnages comme Godard ou comme...
Oui, c'est ça, c'est que les gens de l'extérieur pouvaient venir si on savait que absolument. Godard ou René venaient parler à Vincennes.
Personne ne vous empêche de rentrer et d'insister à un cours.
Mais Salah Hamdani, c'était une liberté folle. Liberté
moi,
politique,
énorme.
Liberté de pensée, liberté sexuelle. Vous vous êtes éclaté à Vincennes.
Je suis très fidèle. Si vous allez par là. Non, j'étais fidèle. Mais je veux dire que...
Non, mais éclaté intellectuellement aussi.
Oui, intellectuellement, d'accord. Mais non, mais je voyais tout ça. Je suis comme une éponge.
C'est ça.
Quand je prenais tout.
Tout.
C'est ça qui m'a donné la France, Vincennes, la culture française. Jusqu'à aujourd'hui, je suis extrêmement curieux. La curiosité est une signe pour moi très, très importante, essentielle dans ma vie.
Et puis, à cette université de Vincennes, vous rencontrerez votre première femme.
Absolument. Qui s'appelle Danielle Roland.
Qui s'appelle Danielle, oui. Et qui était originaire
de Morvan.
Du Morvan.
Comment s'appelle cette rivière, là, Jean-Claude Rabhi?
Le Cousin, qui est un affluent de la Cure, elle-même affluent de l'Yonne. Et c'est une rivière qui passe par des tas de tribulations ou d'avatars, car il s'appelle le Cousin, puis après le Trinclin, puis à nouveau le Cousin. Alors, à Carré-les-Tombes, au Brizard, dans ce coin-là, on va vous parler du Trinclin. C'est celui-là, c'est le même, mais il n'a pas le même nom.
C'est aussi Lyonne et la Seine.
Oui, bien sûr, c'est...
Jean-François Noël, pour vous, le Morvan, quand on a discuté avant de venir,
oui.
Je me souviens, vous m'avez dit, une très belle formule, mais c'est un peu le château d'eau de la région. C'est l'eau qui vous retient.
C'est le bruit du...
Regardez le Cousin.
Alors vous, Salah Hamdani, vous regardiez le Cousin? Vous pêchiez à la truite? Parce que j'ai appris que le Morvan, c'était le lieu de la pêche à la truite.
Oui, mais moi, la majeure partie de mon temps, je l'ai passé avec ma belle-mère. Quand je vais dans le Morvan, elle me prenait le français. Parce qu'elle était directrice d'une école d'enfants. Et donc, moi, avec ma voix, il m'a adoré. Je l'adorais, cette femme, parce qu'elle est décédée, malheureusement. Et qu'elle était ma deuxième mère en France.
Et elle vous prenait comme ça, dans la cuisine, j'imagine, dans la cuisine.
Un peu partout, le matin. Il y avait toujours du cours, comme elle travaillait avec les enfants. Donc, j'ai appris les débuts des mots en français avec un livre, je me souviens, c'est Toto joue dans le jardin.
Alors, donc, votre apprentissage de la France, de la culture française, c'était entre Vincennes et Toto joue dans
le jardin. Et Toto joue dans, voilà, absolument.
Toto
oui.
joue dans le jardin.
Joue dans le jardin, oui.
Zoé Varier. Une journée particulière sur France Inter. Oui, ben, j'ai passé la majeure partie de mon temps dans un café de Mokoulsoum à Bagdad, donc c'est imprégné.
Alors, est-ce que je voulais vous faire plaisir en vous faisant écouter Oum Kalsoum Salah Al-Hamdani, mais pas seulement, parce que la grande Oum Kalsoum a disparu en 1975, cette année même où vous arriviez en France.
Tout à fait, oui.
Vous le saviez ?
Oui, j'ai appris ça, c'était pas quelque chose qui m'a bouleversé, parce que j'étais déjà bouleversé sur d'autres éléments politiques et d'autres. Mais oui, c'est vrai.
Alors, en 1975, Salah Al-Hamdani, je ne sais pas si vous vous rappelez, la loi Veil autorisant l'avortement est votée à l'Assemblée. C'est aussi la signature des accords d'Alger entre l'Iran et l'Irak.
Oui, c'est-à-dire Saddam était entre les deux.
L'Irak reconnaît les frontières de l'Iran.
Oui, c'est ça.
La guerre civile éclate au Liban. En 1975,
tout à fait, oui.
C'est aussi la chute de Saïgon, et la fin de la guerre du Vietnam. C'est Andrei Sakharov, le physicien russe qui reçoit le prix Nobel de la paix. Pasolini est assassiné à Rome. Vous vous en souvenez ?
Plus tard, j'ai appris. Oui.
Et Franco meurt en 1975.
Bon, Franco, je sais pourquoi il meurt, parce que après j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le maquis contre les franquistes. Oui, oui.
En 1975, en France, sort au cinéma un film qui marquera l'histoire du cinéma français. C'est Le Vieux Fusil, avec Noiret et Romy Schneider. Ouais. C'est un film qui remportera 3 Césars. Prix du meilleur film, prix du meilleur acteur pour Philippe Noiret et de la meilleure musique.
Bougez pas. Ça servira à rien.
Vous n'aimez pas mes visites, on dirait.
Il n'y a que des malades ici.
Je sais. Des malades communistes. Des malades saboteurs, même.
Chef, on l'a trouvé !
Il m'a tué 2 miliciens.
Je ne fais pas de politique.
C'est ce que disent les lâches dans les périodes graves.
Je ne fais pas de politique. Je soigne les blessés. Ou vous le laissez ici, ou je préviens le médecin-major Muller.
Monsieur Dandieu, la guerre n'est pas encore terminée. Si vous n'étiez pas chirurgien, vous savez ce qui arriverait ? Je vous embarquerais à la Gestapo allemande et vous seriez fusillé. Eh oui. Il y a longtemps que je vous suis, de loin. Vous avez une famille ? Une femme, une fille, dans leur propre intérêt. Surveillez-vous.
Impressionnant, hein.
Vous l'avez, c'est un film que vous avez
beaucoup aimé. Oui,
c'est un
film que j'ai beaucoup aimé. Oui, ça, c'était bouleversant, parce que enfin, je ne l'ai pas vu le jour où il est sorti, bien entendu, je l'ai vu plus tard. Mais c'était énorme, ce film, parce que ça me touche un peu dans mon histoire, finalement.
Oui, c'est ça, là, voilà. Ça parlait de la guerre et d'un médecin.
Ah oui, tout à fait, ça me touche, voilà, tout à fait, les Gestapo, les Allemands, voilà. Etc. C'est quelque chose qui va se venger
de la mort de sa femme et de sa fille.
Absolument, oui, cette scène. Ce qui est paradoxal, c'est plus tard, où j'ai joué dans un film avec Philippe Noiret.
C'est vrai?
Oui, ça s'appelait Le Quatrième Pouvoir. Mon personnage vient acheter des armes et il est assassiné en France. Donc, vous voyez comment la France m'utilise pour ce genre de film à l'époque. Et c'est vrai que Philippe Noiret, il y avait toujours avant on tourne, c'était dans le 16e, il y avait une énorme maison, des très bourgeois, etc. Et lui, il était là, très grand, avec ça, j'adore sa voix. Et lui, il était pressionné aussi par ma voix. Il me dit, on a dit un Irakien ici d'origine. Et il adorait l'histoire. Alors il me dit, venez, racontez-moi, tout ça. Et on a parlé. Il était admirable. Ça me rappelait un peu Alain Resnais qui disait que quand je tourne, dans les plans où je tourne, il n'y a pas une mouche qui passe sans mon autorisation. Et Philippe Noiret, j'ai l'impression qu'il ne fait rien sans grande réflexion. Il ne fait pas n'importe quoi. C'est pas un acteur à la mode, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de rigueur et beaucoup de profondeur.
En 1975, Salah Alhamdani, vous découvrez Léo Ferré et sa chanson « La mémoire de la mer ».
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrime au port. De justesse, il pleure de mon firmament. Des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre,
La mémoire et la mer de Léo Ferré, Salah Alhamdani.
C'est toujours bouleversant quand j'entends la voix de Léo Ferré.
Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le offrir et grâce à cette chanson qui est ma première relation avec Danielle Roland. C'était chez elle.
Avec votre première femme.
Absolument. C'était avec ça. Et plus tard, j'étais pratiquement l'œuvre complète de Léo Ferré, et je mettais les matins à ouvrir la fenêtre à Nation, et qu'il y a un immeuble devant moi, et on écoutait Léo Ferré. Et à ma fille, Carmel, qui naît de notre mariage avec Danielle, elle écoutait avec moi, je lui dis ça, c'est ton grand-père. Léo Ferré. Elle dit, elle pense toujours que c'est son grand-père. Plus tard, les années 90, j'ai rencontré Léo Ferré à l'hôpital.
C'est extraordinaire.
J'étais brancardier.
Oui.
Parce que moi, j'ai tout laissé tomber et je suis devenu brancardier au CHU de Bicêtre. Et un jour, la dame, la surveillante, elle dit, on a Léo Ferré. Qui prend Léo Ferré? Comme j'étais brancardier, c'est comme des camionneurs. Je dis, moi, madame. Et moi, dans le chemin, je dis, c'est pas vrai. C'est pas Léo Ferré. C'est pas lui. Alors, au cinquième étage, je monte, je rentre avec une blouse blanche et je vois Léo Ferré assis sur une chaise. Je lui dis, Je peux t'embrasser. Alors, il comprenait pas. Sa femme était assise sur le lit. Il me dit, oui, d'accord. Alors, je l'embrasse. Il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, moi, je t'adore. Et j'ai traduit avec le temps. Je l'ai traduit en arabe avec le temps. Et je l'ai récité un peu. Et il me dit, viens avec moi en Italie. Et je lui dis, je peux pas. J'ai ma famille, j'ai mes enfants ici.
Voilà. Vous avez invité à aller en Italie?
Il m'a invité avant sa mort, hein, parce que c'était vraiment la fin, ça, voilà.
Alors avant de se quitter, Salah Alhamdani, on a une petite surprise et on espère qu'elle vous fera plaisir. C'était en 1975, le poète Yves Bonnefoy sortait son recueil dans le Leurre du Seuil, et voilà la définition que donnait Yves Bonnefoy de la poésie.
La poésie est fondatrice d'être. Nous avons, dans le monde du conceptuel, qui est le nôtre, à habiter dans une sorte d'immense échafaudage de notions, de significations, de représentations, et tout cela est fondamentalement irréel. En ce sens que, par exemple, l'expérience de notre finitude, du temps qui passe, de l'irrémédiable du temps, tout cela échappe à ces formes de représentation. Et comme c'est irréel, tout cela peut s'écrouler d'un moment à un autre. On peut se retrouver dans le désastre, on peut se retrouver au bord du gouffre, on peut avoir le sentiment que tout ce que nous avions au sein de notre langue n'est qu'une chimère dont il ne reste dans cet instant plus rien, expérience du non-être. Et dans ces conditions, que peut-on faire? Soit se laisser aller à ce non-être, s'y enfoncer, soit, et c'est cela qui me paraît la poésie, se rendre compte qu'au bord du gouffre où nous sommes, eh bien, il y a quelqu'un d'autre près de nous, et se retourner alors vers cet autre pour lui proposer une alliance. Et c'est cela que j'appellerai l'être. Et je dirais donc que ce mouvement de retour vers l'autre, qui a besoin de la parole et qui crée une parole toute simple pour être le lien, ce mouvement-là, c'est la poésie.
Ça vous plaît, Salah Alhamdani?
Formidable.
Le mouvement de retour vers l'autre, c'est
absolument,
ça?
Absolument, c'est formidable. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ça me va très très bien.
Merci Salah Alhamdani d'avoir passé cette heure avec nous. C'était un plaisir. Sur le site de l'émission, vous trouverez toutes les références des ouvrages et des CD de Salah Alhamdani. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Rebecca de Nantes, à la réalisation Céline Hila, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique Rémi Sistiaga. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr. Tout de suite après le flash, c'est Vincent Josse et son grand atelier.